France Inter. Hélène Roussel. Le 5-7.
6h23 et avec nous en studio, Daniel Lévy-Brulle, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du pôle infection respiratoire et vaccination au sein de Santé publique France. Alors ça y est, c'est acté, hein, à partir de janvier prochain. Ce ne sont plus 3, mais 11 vaccins qui seront obligatoires pour les bébés entre 2 mois et 18 mois, annonce de la ministre de la Santé hier. En plus du DTP, donc diphtérie, tétanos, polio, les enfants devront être immunisés contre la coqueluche, la rougeole, les oreillons, la rubéole, l'hépatite B, le pneumocoque, le méningocoque C. Daniel Lévy-Brulle, question simple, pourquoi autant de vaccins, ça paraît énorme?
Alors, en fait, je crois qu'il est important pour commencer de bien faire passer le message qu'au fond, ce changement dans le statut réglementaire des vaccins ne va pratiquement rien changer pour l'immense majorité des familles et donc des nourrissons. En effet, les vaccins que vous avez cités sont déjà des vaccins qui sont aujourd'hui recommandés ou obligatoires pour tous les enfants. Et les données dont nous disposons montrent que plus des deux tiers des familles administrent à leurs enfants l'ensemble de ces vaccins. Donc pour toutes ces familles, ça ne changera strictement rien. Alors pourquoi autant de vaccins? Eh bien, plus il y a de vaccins, plus il y a de protection. Chaque vaccin protège contre une seule maladie. Il y a malheureusement beaucoup de maladies qui peuvent affecter les tout petits nourrissons. Certaines sont très graves. Et pour toutes celles pour lequel il y a un risque de forme grave, pour lequel il y a peut-être même un risque de décès, bien entendu, on cherche un vaccin et lorsqu'on le trouve, on est bien content de pouvoir protéger les enfants.
Alors, par exemple, tous sont-ils absolument nécessaires? Je pense à la rubéole, c'est une maladie grave pour le fœtus, pas pour le bébé.
Alors, la rubéole est une maladie grave pour le fœtus, mais pour empêcher les fœtus d'être contaminés par leur mère au moment de la grossesse, il faut bien que les mères soient vaccinées. Et pour empêcher que les mères soient contaminées pendant la grossesse, il faut bien que leurs compagnons soient vaccinés. D'où l'idée de vacciner tous les enfants contre la rubéole pour faire totalement disparaître ce virus, pour qu'aucune femme enceinte, dans le futur, ne puisse contaminer son nourrisson. Et la contamination d'un fœtus par le virus de la rubéole, c'est parfois dramatique, avec des malformations extrêmement sévères.
Donc c'est un souci collectif, du coup. Voilà, on fait vacciner les bébés pour les femmes enceintes, pour préserver les femmes enceintes.
Mais les bébés sont les futures femmes enceintes. Donc en fait, c'est également une protection individuelle qu'on fait précocement, mais dans la mesure où la protection du vaccin dure pendant des décennies, vacciner une petite fille à l'âge de 12 mois, c'est lui assurer que lorsqu'elle aura 30 ans, et qu'elle sera enceinte, elle ne contaminera pas son nourrisson.
Ce souci du collectif, les 3 vaccins obligatoires jusqu'ici, eux n'avaient aucun impact sur la collectivité. La polio, malgré le vaccin, la personne reste contagieuse. Idem pour la diphtérie. Le tétanos, lui, c'est carrément pas une maladie contagieuse. Se vacciner pour protéger les autres, l'argument ne fonctionne pas. Ou pas toujours.
Vous avez raison pour le tétanos, qui est une maladie un petit peu à part pour laquelle effectivement on se contamine à partir de, comme on le sait, de la terre dans laquelle il y a des spores qui peuvent provoquer la maladie. Mais pour la diphtérie et la polio, c'est pas tout à fait exact. Le fait de se vacciner contre la diphtérie ou de se vacciner contre la polio, c'est d'une part se protéger soi-même, mais c'est aussi contribuer à protéger l'ensemble de la collectivité, puisque lorsqu'on est vacciné, eh bien, on ne reproduit pas dans son organisme le virus ou la bactérie, et donc on ne peut plus la transmettre. Donc il y a dans ces vaccinations, y compris diphtérie et polio, une double dimension individuelle et collective.
Le débat agite évidemment la société. Vous n'avez pas échappé aux pétitions qui circulent anti-vaccins. Que répondez-vous à ceux qui disent que les vaccins ont des effets secondaires neurologiques, musculaires, mal mesurés, parfois irréversibles?
Alors, les vaccins ont tous des effets secondaires. On a tous le souvenir, lorsqu'on se fait vacciner, de ressentir parfois dans le bras, pendant quelques heures ou quelques jours, une petite douleur.
D'avoir la fièvre chez les petits, voilà, qui peut monter assez.
Les effets secondaires des vaccins, on les connaît. En tout cas, pour ce qui concerne tous les vaccins du nourrisson et tous ceux qui sont aujourd'hui, qui font l'actualité, on a un recul suffisant pour être tout à fait rassurant, et on peut affirmer que aucun de ces vaccins ne donne d'effets secondaires graves. Il n'y a que des effets secondaires bénins, transitoires. Il n'y a pas de maladie neurologique qui soit liée à ces vaccins. Il n'y a pas de maladie musculaire qui soit liée à ces vaccins.
Ce qui compose les vaccins pose aussi problème ou question, tout au moins. Pourquoi, par exemple, s'inquiéter de l'aluminium dans les déodorants et pas dans les vaccins?
Alors, dans les vaccins, parce que moi je ne m'occupe pas des déodorants, il y a effectivement l'aluminium. Il y a de l'aluminium parce que c'est indispensable pour pouvoir protéger le nourrisson. Un vaccin sans aluminium, pour certains vaccins en tout cas, ça ne protège pas. L'aluminium, on l'utilise depuis maintenant 90 ans. On l'utilise à une échelle qui permet d'avoir suffisamment de recul pour savoir ce que l'on fait. Aujourd'hui, par exemple, c'est plus de 100 millions de nourrissons qui reçoivent chaque année un vaccin contenant de l'hydroxyde d'aluminium. S'il y avait un risque, eh bien, je pense qu'on aurait suffisamment de recul pour pouvoir l'avoir objectivé.
Enfin, c'est banco pour les labos, quand même.
Le passage de la situation actuelle à l'obligation aura une conséquence totalement marginale pour les laboratoires. Il s'agit juste d'augmenter la couverture vaccinale pour ceux pour lesquels elle était insuffisante.
Daniel Lévy-Brulle, merci d'être venu nous voir et puis merci pour toutes ces explications sur les vaccins. Restez avec nous sur France Inter, table ronde pour le petit-déj juste après le journal de 6h30. Et puis l'occasion pour moi de saluer tous ceux qui m'ont accompagné cette semaine pour cette première semaine du 5-7 à la préparation, Lucie Lemarchand et Alexandre Gilardi, à la technique, Fabrice Desmaz, Julien Dumont, lui, puis celui qui signe la programmation musicale, Thierry Dupin. Un grand merci à eux. Vous les entendez pas, mais sans eux, il n'y a pas d'antenne, c'est simple. Marie-Pierre Planchon dans quelques secondes.